Bienvenue dans votre visite audio exclusive du Palazzo Pitti, présentée par YouTour. Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui pour explorer l'un des monuments les plus majestueux de Florence. Le Palazzo Pitti n'est pas seulement un palais, c'est un chef-d'œuvre d'art, d'histoire et de grandeur, un lieu où l'héritage de la puissante famille Médicis demeure dans chaque plafond doré et chaque mur orné de fresques. Au cours de cette visite, nous vous guiderons à travers ces pièces époustouflantes, dévoilant des histoires de pouvoir, de passion et de génie artistique. Vous marcherez dans les mêmes couloirs que des ducs, des grandes duchesses et des rois, entourés de certaines des plus belles œuvres des périodes de la Renaissance et du Baroque. Notre voyage commence avec la Galleria Palatina, le joyau de la collection artistique du palais. Ce n'est pas simplement une galerie, c'est une vitrine d'opulence, où des peintures mondialement célèbres sont exposées, non pas dans un ordre strictement chronologique, mais dans le style théâtral du XVIIe siècle. Les Médicis et plus tard la dynastie des Lorraine ont arrangé ces chefs-d'œuvre de manière à mettre en avant la grandeur plutôt que l'ordre, créant ainsi un festin pour les yeux à chaque tournant. En entrant, préparez-vous à être immergé dans un monde où l'or brille des cadres finement sculptés, où les murs débordent d'œuvres de Raphaël, Titien, Rubens et Caravage. C'est de l'art tel qu'il devait être vu, non pas enfermé derrière des vitres mais faisant partie de l'architecture même du pouvoir et du prestige. Prenez une grande inspiration, laissez vos yeux errer et laissez-vous transporter. Commençons. En entrant dans la Galleria Palatina, prenez un moment pour absorber votre environnement. L'entrée seule donne le ton pour ce qui vous attend, une grande introduction à un monde d'opulence, où l'art et l'architecture se fondent dans un spectacle spectaculaire de pouvoir et de goût. La douce lueur de la lumière naturelle filtrant par les grandes fenêtres capte les accents dorés des moulures complexes, se reflétant sur les sols de marbre poli. La grandeur est immédiate, un effet intentionnel visant à submerger et impressionner les visiteurs, tout comme il y a des siècles. Avant de pénétrer plus profondément dans la galerie, dirigez votre attention vers les premières statues qui nous accueillent. Ces œuvres finement sculptées, souvent éclipsées par les célèbres peintures au-delà, servent de puissants rappels du mécénat des Médicis non seulement pour la peinture, mais aussi pour la sculpture. Les figures, magistralement taillées dans un marbre blanc lumineux, dégagent une impression de mouvement, leurs draperies presque fluides, leurs expressions figées dans une intensité dramatique. Elles se dressent comme des gardiennes silencieuses des trésors qui se trouvent devant nous, un prélude parfait au voyage artistique que nous nous apprêtons à entreprendre. Sur le côté, vous remarquerez une collection de dessins exquis, des esquisses fragiles mais puissantes de certains des plus grands maîtres de la Renaissance. Ces études, souvent réalisées à l'encre ou à la craie sur papier, révèlent le talent brut et la vision derrière les chefs-d'œuvre achevés. Regardez de près les détails, les ombrages délicats, les lignes anatomiques précises, les coups de pinceau hâtifs mais confiants qui nous offrent un aperçu de l'esprit de l'artiste à l'œuvre. Maintenant, suivez-moi alors que nous pénétrons dans l'anticamera de Glistafiri, ou antichambre des huissiers. Cette pièce, bien souvent traversée rapidement, mérite un moment d'appréciation. Elle servait autrefois de salle d'attente pour ceux qui cherchaient à avoir une audience avec le grand-duc, un espace conçu pour impressionner et intimider à la fois. Notez les riches tentures en damas, les portraits imposants, et la manière dont chaque élément jusqu'aux moulures dorées évoque le pouvoir et le contrôle. Prenez votre temps pour regarder autour de vous, et lorsque vous êtes prêt, nous continuerons notre visite au cœur de la galerie. La pièce elle-même est un chef-d'œuvre d'harmonie. La lumière du soleil pénètre par les grandes fenêtres, projetant de longues ombres qui se déplacent sur les surfaces en marbre des statues, mettant en valeur leurs détails exquis. Les plafonds, ornés de fresques complexes, contribuent à l'illusion que nous marchons à travers une grande scène, où des dieux et des héros de la mythologie semblent prendre vie. L'effet est intentionnel, destiné à éveiller un sentiment de crainte chez tous ceux qui passent. Maintenant, examinons de plus près certaines des sculptures devant nous. L'une des plus frappantes est la Vénus Italica, une figure gracieuse et délicate en marbre sculptée par Antonio Canova au début du XIXe siècle. Cette œuvre a été commandée pour remplacer une ancienne Vénus Médicis qui avait été emportée en France pendant l'occupation napoléonienne. La Vénus de Canova, bien que s'inspirant des idéaux classiques, dégage une tendresse plus humaine, sa pose modeste, la courbure douce de son corps, et le rendu délicat de ses traits en font une vision de beauté et de raffinement. À proximité, vous trouverez le Alexandre Mourant, une sculpture dramatique et fortement expressive du roi macédonien antique. Son visage tordu par l'angoisse, les veines qui gonflent sur son front, il capture l'essence même de la souffrance et de la mortalité. Le dynamisme de cette œuvre contraste fortement avec la beauté sereine et idéalisée de la Vénus de Canova, démontrant la variété sculpturale au sein de cette galerie. Plus loin, remarquez les bustes des empereurs et philosophes romains, chacun sculpté avec un réalisme remarquable. Ces œuvres n'étaient pas seulement décoratives, mais aussi des symboles de sagesse, de pouvoir et de continuité avec le monde antique, un rappel que les Médicis, et plus tard les souverains Lorraines, se considéraient comme les héritiers de la grandeur classique. Laissez vos yeux errer, prenez en compte la conversation silencieuse entre ces figures de différentes époques et lieux, et imaginez comment cet espace devait se ressentir il y a des siècles, lorsque les nobles et les érudits se promenaient, discutant de philosophie, de politique et d'art. Lorsque vous êtes prêts, nous avancerons vers la prochaine étape de notre voyage. Continuons notre parcours à travers les halls opulents de la Galleria Palatina, en nous dirigeant vers la Sala dell'Allegoria. En entrant, remarquez comment l'atmosphère change, la pièce semble presque théâtrale, nous enveloppant dans un monde de symbolisme et de grandeur. Cet espace a été conçu non seulement pour exposer l'art, mais aussi pour immerger les visiteurs dans un récit allégorique, où chaque peinture joue un rôle dans une histoire plus vaste de pouvoir, de vertu et de faveur divine. Regardez vers le plafond, où se trouve la fresque spectaculaire, un chef-d'œuvre de Pietro da Cortona, l'un des peintres baroques les plus importants de son époque. Sa capacité à créer des compositions dynamiques et illusionnistes est pleinement exposée ici, avec des dieux, des muses et des figures allégoriques qui tourbillonnent au-dessus de nous, donnant l'impression d'un espace infini. La grandeur de cette fresque n'est pas seulement un spectacle, elle était destinée à glorifier la famille Médicis, les représentant comme des souverains divinement choisis, protecteurs des arts et héritiers d'un destin glorieux. Maintenant, tournez votre attention vers les murs, où sont exposées certaines des peintures les plus magnifiques de la galerie. Parmi elles, vous trouverez des œuvres de Guido Reni, Domenichino et Guercino, chacun contribuant au thème général de l'allégorie et de la vertu de la pièce. L'une des œuvres les plus frappantes ici est la Charité de Guido Reni, une représentation douce mais profondément émouvante d'une figure maternelle nourrissant des enfants, un exemple classique de l'aptitude de Reni à mêler beauté classique et profondeur émotionnelle. En avançant, nous pénétrons dans la Sala delle Belle Arti, ou Salle des Beaux-Arts. Cette pièce est une véritable célébration du génie artistique, abritant certaines des œuvres les plus précieuses de la galerie. L'opulence continue avec d'autres fresques au plafond, à nouveau réalisées par Pietro da Cortona, dont la maîtrise de la perspective crée l'illusion d'un ciel qui s'ouvre au-dessus de nous, rempli de figures mythologiques qui semblent flotter sans effort à travers les cieux. Parmi les peintures remarquables de cette pièce, une qui attire particulièrement l'attention est la Madone du Grand-Duc de Raphaël. Cette image délicate mais puissante de la Vierge et de l'Enfant est l'une des œuvres les plus célèbres de Raphaël, admirée pour son expression sereine et sa composition harmonieuse. Le bleu profond du manteau de Marie, contre le modelé doux de ses traits, crée une présence éthérée qui capte le regard du spectateur. À proximité, vous trouverez le portrait d'un gentleman de Titien, un exemple remarquable du portrait de la Renaissance. Le regard pénétrant du sujet, la finesse du rendu des tissus, et le subtil jeu de lumière et d'ombre révèle l'inégalable capacité du maître vénitien à capturer à la fois la ressemblance physique et la profondeur psychologique. Prenez un moment pour apprécier la manière dont ces œuvres sont disposées, non pas dans l'ordre chronologique typique des musées modernes, mais d'une manière qui privilégie l'impact esthétique. L'effet est presque accablant, comme si les peintures rivalisaient pour attirer votre attention, créant une expérience riche et immersive qui reflète la manière historique dont ces salles étaient censées être vues. Lorsque vous êtes prêt, continuons notre visite plus profondément dans le palais, où d'autres trésors artistiques vous attendent. Maintenant, entrons dans la Sala di Ercole, ou Salle d'Hercule, l'une des pièces les plus visuellement frappantes de la Galleria Palatina. Dès votre entrée, vous remarquerez immédiatement que cette pièce, comme beaucoup d'autres dans le palais, n'est pas seulement un espace d'exposition de peinture, mais un hommage soigneusement orchestré au pouvoir, à la vertu et à la grandeur mythologique. Chaque élément, des fresques au plafond aux décorations opulentes, sert un but symbolique. Au centre de la pièce se trouve une œuvre extraordinaire, le vase Médicis. Ce vase monumental en marbre, finement sculpté, est l'un des plus beaux exemples de sculpture classique de la collection. Mesurant plus de 5 pieds de hauteur, il présente un relief continu d'une procession bachique des figures se livrant à la musique, à la danse et au plaisir de la vie. Le vase lui-même était un élément prisé de la collection Médicis, symbolisant non seulement le raffinement esthétique, mais aussi une connexion avec la grandeur du monde antique. Maintenant, levez les yeux vers le plafond. Les fresques au-dessus, peintes par Pietro da Cortona, poursuivent le récit visuel du pouvoir et du triomphe qui traverse toute la Galleria Palatina. Ici, nous voyons l'apothéose d'Hercule, un chef-d'œuvre dramatique et illusionniste qui dépeint le héros mythologique montant vers l'Olympe. Hercule, symbole de force, d'endurance et de faveur divine, a été choisi délibérément pour cet espace. Son histoire faisait écho au récit de la famille Médicis, marqué par la lutte, le triomphe et la gloire ultime. Remarquez comment les figures dynamiques de Cortona semblent éclater à travers le plafond, comme si les cieux peints s'ouvraient au-dessus de nous. Cet effet, caractéristique de l'illusionnisme baroque, crée un sentiment écrasant de mouvement et de grandeur. En tournant vers les peintures sur les murs, nous découvrons certaines des œuvres les plus célèbres de la collection Médicis. L'une des pièces maîtresses de cette salle est Les conséquences de la guerre de Rubens, une peinture puissante et pleine d'émotions qui capte le chaos et la destruction apportés par le conflit. Les figures tourbillonnantes, l'éclairage dramatique et les expressions intenses reflètent la capacité magistrale de Rubens à transmettre le mouvement et l'émotion. Cette œuvre, peinte pendant la guerre de 30 ans, sert à la fois de tour de force artistique et de poignant rappel de la dévastation de la guerre, un thème qui résonnait profondément à la cour des Médicis. À proximité, un autre point fort est le portrait du cardinal Guido Bentivoglio de Van Dyck. Van Dyck, connu pour ses portraits raffinés et sophistiqués, capture le cardinal avec une autorité et une élégance remarquables. Le rouge luxueux de sa robe, la délicatesse de ses mains, et le regard contrôlé mais expressif révèle le génie de l'artiste, l'un des peintres les plus recherchés de la noblesse européenne. En observant la grandeur de cette salle, remarquez comment toutes les références classiques, les fresques dramatiques et les peintures imposantes renforcent l'idée de force, de pouvoir et d'héritage. Ce n'était pas simplement une galerie, c'était une déclaration de domination, une affirmation de la place des Médicis dans l'histoire. Jetez à nouveau un regard autour de vous, laissez vos yeux se promener à travers les détails complexes, et lorsque vous êtes prêts, nous passerons à notre prochaine étape dans ce voyage extraordinaire. Maintenant, pénétrons dans la Sala dell'Arca, une pièce qui dégage un autre type de grandeur, un qui est moins théâtral que les salles précédentes mais tout de même fascinant. Le nom Sala dell'Arca, salle de l'Arche, vient du magnifique cabinet, ou Arca, placé ici pour abriter les objets précieux et les documents de la famille Médicis. Contrairement au thème mythologique des autres salles, cet espace possède une atmosphère plus intime et raffinée, conçue pour mettre en valeur des trésors plus petits mais tout aussi précieux. En regardant autour de vous, vous remarquerez que les peintures de cette pièce penchent vers des thèmes dévotionnels et réfléchis. L'une des œuvres les plus frappantes est la Sainte Famille d'Andrea del Sarto, un chef-d'œuvre d'équilibre et d'harmonie, où la douceur des figures et la palette de couleurs douces créent une atmosphère de dévotion tranquille. Del Sarto était connu pour sa capacité à mélanger la grandeur de la composition de la haute Renaissance avec une tendresse presque délicate, rendant ses œuvres profondément émouvantes. Une autre pièce importante ici est la Vierge et l'Enfant avec les saints de Fra Bartolomo. Fra Bartolomo, un moine dominicain, était fortement influencé par les enseignements religieux de Savonarola, et ses peintures reflètent une intense profondeur spirituelle. Remarquez comment les figures semblent presque sculpturales dans leur forme, leurs gestes solennels, leurs expressions sereines mais pleines d'émotions. L'interaction de la lumière et de l'ombre confère à la scène une qualité méditative, invitant les spectateurs à faire une pause et à réfléchir. Suivez-moi maintenant alors que nous pénétrons dans l'un des espaces les plus sacrés et uniques du palais, la Cappella delle Reliquie, ou Chapelle des Reliques. Cette chapelle intime a été conçue pour abriter l'une des collections les plus précieuses de la famille Médicis, leurs reliques religieuses. Les Médicis n'étaient pas seulement des mécènes des arts et des souverains de Florence, mais aussi profondément impliqués dans le pouvoir spirituel et politique de l'Église. Posséder des reliques, des fragments d'os de saints, des morceaux de la vraie croix et d'autres artefacts sacrés était un signe de faveur divine et de légitimité. En entrant, remarquez comment l'ambiance change. Le bois sombre des cabinets de reliques contraste avec les embellissements dorés, créant un sentiment de révérence solennelle. L'espace est faiblement éclairé, renforçant l'aura mystique des objets exposés. Ces reliques n'étaient pas seulement des artefacts religieux, elles étaient des symboles de pouvoir, reliant les Médicis au divin et renforçant leur statut de souverain béni par Dieu. Levez les yeux vers les fresques du plafond, bien que plus petites que celles des grandes salles, elles sont tout aussi impressionnantes. Les peintures représentent des anges et des saints en adoration, leurs formes éthérées flottant au-dessus, soulignant la signification spirituelle de cet espace. Cette chapelle, bien que souvent négligée, est l'un des coins les plus personnels du Palazzo Pitti, un rappel que, au-delà des démonstrations de richesse et du mécénat artistique, les Médicis se considéraient comme les gardiens de la foi et de la tradition. Passons maintenant à l'une des pièces les plus envoûtantes du Palazzo Pitti, la Sala della Musica, ou Salle de la Musique. En entrant, prenez un moment pour laisser vos yeux s'ajuster à la grandeur de l'espace. Cette salle a été conçue non seulement comme une galerie, mais comme un véritable temple dédié à la musique, un art profondément apprécié par les Médicis et plus tard par les souverains de la Lorraine. C'est ici que la musique remplissait l'air, accompagnant des événements fastueux à la cour, des rassemblements intimes, et même des réunions diplomatiques où les mélodies parlaient tout aussi puissamment que les mots. La première chose que vous remarquerez est l'élégante structure architecturale de la pièce. Les colonnes corinthiennes qui encadrent l'espace lui confèrent une sensation d'harmonie et d'équilibre, tout comme une pièce de musique parfaitement composée. Ces colonnes, ornées de sculptures complexes, ont été conçues pour améliorer l'acoustique de la salle, garantissant que chaque note jouée dans ces murs résonnait magnifiquement. Le choix du marbre frais, poli et lumineux ajoute à l'atmosphère raffinée, mettant en valeur le prestige de ceux qui se rassemblaient ici. Maintenant, dirigez votre attention vers la collection d'instruments de musique exposés dans la salle. Parmi eux, vous trouverez des pièces rares et exquises provenant des cours des Médicis et des Lorraines. L'un des points forts est le clavecin du XVIIe siècle, un instrument central de la musique baroque. Regardez de près son couvercle magnifiquement décoré, ces instruments n'étaient pas seulement joués, mais considérés comme des œuvres d'art à part entière. Le délicat travail d'incrustation, souvent orné de motifs floraux ou de scènes mythologiques, reflète la même attention à la beauté qui imprègne chaque aspect du palais. Une autre pièce remarquable de la salle est le violon Stradivarius, l'un des meilleurs jamais fabriqués. Les instruments d'Antonio Stradivari étaient réputés pour leur qualité sonore inégalée, et en posséder un était un signe de prestige. Imaginez les grands concerts qui ont dû avoir lieu ici, avec la musique qui remplissait les couloirs, jouée par certains des musiciens les plus talentueux de l'époque. En vous déplaçant dans la salle, prenez un moment pour apprécier les statues qui ornent l'espace. Ces sculptures, dont beaucoup sont inspirées par l'Antiquité grecque et romaine, ont un double rôle, elles ajoutent à l'harmonie visuelle de la pièce tout en symbolisant la profonde connexion entre la musique et le divin. Remarquez la statue d'Apollon, le dieu grec de la musique et des arts. Son expression posée et sa posture élégante nous rappellent que la musique n'était pas simplement un divertissement à la cour, mais un art censé élever l'âme. À proximité, vous trouverez des statues des muses, les inspirations antiques derrière la poésie et la chanson. Ces sculptures renforcent l'idée que la musique était perçue comme un pont entre la beauté terrestre et la perfection divine. Le placement de ces statues, disposées avec soin pour compléter la symétrie de la salle, crée un rythme à part entière, imitant la nature structurée mais fluide de la musique. Imaginez cet espace il y a des siècles, les invités nobles assis sur des chaises dorées, la lueur des bougies se reflétant sur les instruments polis, et l'écho d'un violon ou d'un clavecin remplissant l'air. La Sala della Musica n'était pas seulement une salle, mais une expérience, un lieu où la musique et la magnificence s'entrelacent pour créer quelque chose de véritablement magique. Prenez un dernier regard sur cet espace époustouflant, laissez les sons imaginés résonner dans votre esprit, et lorsque vous serez prêt, nous poursuivrons notre voyage plus profondément dans le palais. Passons maintenant dans la Galleria del Poxetti, un long et élégant couloir servant de transition entre différentes sections du Palazzo Pitti. Contrairement aux grandes salles que nous avons explorées jusqu'à présent, cette galerie possède un caractère plus intime, mais richement décoratif, nommé d'après Bernardino Poxetti, le talentueux peintre de la fin de la Renaissance, responsable de beaucoup des fresques de cet espace. En marchant le long de cette galerie, prenez un moment pour admirer les fresques du plafond, un exemple exquis de la maîtrise de Poxetti dans l'art du récit. Ces fresques ne sont pas simplement décoratives, elles racontent des moments importants de l'histoire florentine, de la mythologie classique et des vertus célébrées par la cour des Médicis. La palette de couleurs délicates, remplie de jaune doux, de tons terreux chauds et de bleu céleste, confère à l'espace une qualité raffinée, presque éthérée. Le style de Poxetti se caractérise par des figures gracieuses, des détails complexes et une interaction sophistiquée de lumière et d'ombre, faisant de cette galerie un joyau caché au sein du palais. Maintenant, regardez les murs, où une série de peintures dans des cadres dorés ornés complètent les fresques au-dessus. Contrairement aux scènes mythologiques grandioses des grandes salles, les peintures ici penchent vers un style plus intime, dévotionnel et narratif. Vous trouverez des œuvres de Francesco Furini, Cristofano Allori et d'autres maîtres baroques, dont la maîtrise de la représentation des émotions humaines est évidente dans la douceur de leurs figures et la profondeur d'expression des visages de leurs sujets. Parmi les pièces les plus saisissantes de la galerie figure Judith avec la tête d'Holoferne de Cristofano Allori. Cette œuvre puissante capture le moment après que l'héroïne biblique Judith ait décapité le général assyrien Holoferne, un thème populaire dans l'art florentin pour sa combinaison de beauté et de brutalité. Ce qui rend cette peinture particulièrement fascinante, c'est qu'Allori aurait utilisé son ancienne amante comme modèle pour Judith et lui-même pour la tête tranchée, transformant l'histoire biblique en une allégorie profondément personnelle de l'amour et de la vengeance. Une autre œuvre captivante que vous trouverez dans cet espace est Allégorie de la mort et de la gloire de Francesco Furini, une peinture émotionnellement intense qui explore la nature fugace de la vie et la quête de l'immortalité à travers l'héritage. Le travail caractéristique de Furini, avec ses coups de pinceau doux et ses expressions mélancoliques, rend cette pièce particulièrement obsédante et contemplative. En vous dirigeant plus loin dans la galerie, vous remarquerez également une impressionnante collection de sculptures, dont beaucoup sont classiques ou inspirées de l'Antiquité. Regardez de près les bustes des empereurs romains et des figures mythologiques, ces pièces ont été collectées par les Médicis et plus tard par la famille Lorraine pour renforcer leur lien avec la grandeur du monde antique. Les surfaces de marbre finement sculptées, les boucles de cheveux soigneusement rendues et les expressions réalistes témoignent du savoir-faire extraordinaire de ces œuvres. Passons maintenant dans la Sala di Prometeo, une salle qui nous transporte dans le monde de la mythologie et de la grandeur céleste. Comme le nom l'indique, cette pièce est dédiée à la figure de Prométhée, le titan de la mythologie grecque qui a défié les dieux en volant le feu pour le donner à l'humanité, un symbole de connaissance, de défi et de création. La fresque du plafond, peinte par Pietro da Cortona, est l'une des plus époustouflantes du palais. Elle représente le châtiment de Prométhée, montrant le titan lié à un rocher tandis qu'un aigle descend sur lui, un châtiment infligé par Zeus pour son défi. Le mouvement dynamique des figures, les expressions dramatiques et l'illusion de profondeur font de cette fresque un chef-d'œuvre de peinture de plafond baroque. Les nuages tourbillonnants, les teintes célestes vibrantes et la qualité presque sculpturale des corps confèrent à la scène une énergie accablante, comme si les cieux eux-mêmes étaient en pleine tourmente. Le choix de Prométhée comme figure centrale de cette pièce n'est pas un hasard. Pour les Médicis, il était un symbole puissant, un intellectuel rebelle, un porteur de lumière, une force de progrès contre la tyrannie. Cette salle était destinée à être plus qu'un simple espace décoratif, c'était une déclaration philosophique, célébrant la sagesse, la créativité artistique et la quête de la connaissance. Le long des murs, vous trouverez une remarquable série de peintures de Guido Reni et de Domenichino, deux des plus grands peintres baroques de leur époque. Une des pièces maîtresses est Bacchus et Ariane de Guido Reni, une œuvre lumineuse et onirique représentant l'histoire d'amour entre le dieu du vin et la princesse crétoise Ariane. Les figures de Reni possèdent une élégance presque divine, et la lumière douce et radieuse qui enveloppe la scène renforce sa beauté mythologique. Non loin de là, vous trouverez Saint Jérôme dans le désert de Domenichino, un contraste frappant avec la vision idyllique de Reni. Ici, le saint âgé est dépeint en profonde contemplation, son corps marqué par le temps, ses yeux tournés vers le ciel alors qu'il prie. Les tons terreux de la peinture, l'éclairage dramatique et l'intensité émotionnelle brute en font l'une des œuvres dévotionnelles les plus puissantes de la salle. Prenez un moment pour admirer les sculptures qui bordent la pièce, beaucoup d'entre elles sont des figures allégoriques représentant les vertus de la sagesse, de la force et de la résilience. Ces statues ont été placées avec soin pour renforcer la signification symbolique de la salle, soulignant les thèmes de la lutte, de l'illumination et du triomphe sur l'adversité. Chaque détail dans cette pièce, des peintures et sculptures aux fresques du plafond, a été conçu pour raconter une histoire de défi, de savoir et de quête de quelque chose de plus grand que soi. C'est une pièce destinée à inspirer, tout comme Prométhée lui-même, nous rappelant que l'art, comme le feu, a le pouvoir d'éclairer et de transformer le monde. Alors que nous poursuivons notre voyage, entrons dans la salle suivante, où l'atmosphère devient profondément intrigante et mythologique. Vous pénétrez maintenant dans un espace qui raconte le récit aventureux d'Ulysse, le héros grec connu pour sa sagesse, son astuce et son long voyage de retour après la guerre de Troie. Cette salle porte son nom, et en observant autour de vous, vous verrez les murs décorés de peintures qui narrent les différents chapitres de l'incroyable histoire d'Ulysse. Commencez par regarder les fresques au plafond, celles-ci ont été peintes par Giovanni da San Giovanni, et elles capturent les épisodes dramatiques de l'Odyssée d'Homère. La scène la plus frappante montre Ulysse attaché au mât de son navire pour résister au chant des sirènes, ces créatures mythologiques dont les voix envoûtantes menaient les marins à leur perte. Vous pouvez presque ressentir la tension dans l'air alors que les hommes d'Ulysse rament désespérément et qu'ils luttent pour se libérer du sort des sirènes. Cette fresque est une représentation magistrale des batailles physiques et mentales auxquelles Ulysse a dû faire face tout au long de son long voyage. Maintenant, jetez un œil aux peintures sur les murs. Vous remarquerez des œuvres de plusieurs artistes renommés, mais peut-être la plus captivante est l'interprétation de Pietro da Cortona des rencontres d'Ulysse avec diverses créatures mythologiques et dieux. Dans une scène, Ulysse est montré en train de tromper le cyclope Polyphème, dont la silhouette imposante contraste avec l'ingéniosité et le courage du héros. Ces œuvres d'art mettent en lumière l'idée que la force intellectuelle surmonte la force brute, un thème qui résonnait avec les Médicis, qui valorisaient à la fois la sagesse et le pouvoir. Alors que vous vous tenez parmi ces scènes d'aventure, réfléchissez à la manière dont le voyage d'Ulysse était perçu comme une métaphore de la condition humaine, une quête sans fin pour la connaissance, le foyer et l'identité. Les Médicis, et plus tard la famille Lorraine, se voyaient comme des Ulysse modernes, naviguant sur les mers de la politique et de l'art pour établir leur héritage. Passons maintenant à un espace qui semble tout à fait différent, mais tout aussi fascinant, la salle de bain de Napoléon. Ce n'est pas une grande pièce, mais elle possède un charme unique. Cette salle faisait autrefois partie des appartements privés de la sœur de Napoléon, Elisa Bonaparte, qui avait reçu le titre de grande duchesse de Toscane. Elle était une grande mécène des arts et avait un goût raffiné pour la décoration, ce qui peut être vu ici dans les détails délicats. Commencez par regarder les murs recouverts de tons doux et sereins, agrémentés de magnifiques moulures dorées, créant une atmosphère de luxe discret. Les fresques du plafond représentent des motifs classiques, donnant à la pièce une ambiance plus élégante et légère comparée aux espaces plus majestueux du palais. Les couleurs pastels douces et les coups de pinceau délicats donnent l'impression d'un cadre calme et intime, probablement destiné à procurer une sensation de relaxation. L'une des caractéristiques les plus intéressantes de cette salle est sa luxueuse baignoire en marbre, à feature rare dans toute maison noble à l'époque. La sœur de Napoléon, Elisa, était connue pour son obsession de la raffinement et de la propreté, et cette salle reflète parfaitement ses goûts. La grande baignoire autonome en marbre poli est placée presque au centre de la pièce, avec des vases décoratifs à proximité, leur forme et leur gravure reflétant le style néoclassique si prisé par les Bonaparte. Si vous regardez de près, vous remarquerez également une collection d'objets en porcelaine fine disposés dans toute la pièce, un autre signe de l'amour d'Elisa pour le luxe exquis. Ceux-ci étaient probablement utilisés pour des parfums, des huiles et d'autres produits de beauté, qui faisaient partie intégrante de sa routine quotidienne. Cette salle, malgré sa taille intime, dégage une impression de pouvoir discret. C'était un espace destiné à la fois à la réflexion personnelle et à la cultivation de la beauté, s'alignant parfaitement avec les goûts raffinés de la famille Bonaparte. Alors que nous finissons d'explorer cette charmante pièce, laissez votre esprit vagabonder vers une époque où les familles royales et impériales cherchaient non seulement la grandeur dans leurs espaces publics, mais aussi la tranquillité dans leurs espaces privés. Lorsque vous serez prêt, nous continuerons notre exploration plus profondément dans les merveilles de ce magnifique palais. En entrant dans cette salle, imprégnez-vous de l'atmosphère qui vous entoure, un voyage immersif à travers le mythe de Jupiter, le roi des dieux. Ici, l'histoire de son enfance et de son ascension au pouvoir prend vie à travers des fresques magnifiques et des œuvres dramatiques qui vous ramèneront à l'époque antique. Cette pièce est dédiée au parcours éducatif de Jupiter, qui passe de l'enfant caché de la colère de son père Saturne au puissant dieu qui régnera sur les cieux. La fresque du plafond, peinte par Giovanni da San Giovanni, est l'un des points forts de cette salle. Elle illustre une scène tendre et divine, Jupiter enfant, soigné par les nymphes. Ces êtres célestes, avec leurs robes flottantes et leurs auréoles dorées, sont représentés en train de nourrir le jeune dieu. Vous pouvez presque ressentir la douceur de la scène, comme si ces figures se déplaçaient doucement dans l'air dans une danse paisible. La lumière qui se reflète sur les figures crée une qualité onirique, presque comme si les dieux eux-mêmes veillaient sur vous. La composition donne une impression de mouvement et de vie, faisant en sorte que la fresque semble se dérouler juste devant vos yeux. En vous déplaçant dans la pièce, regardez les murs, où d'autres peintures offrent des représentations vivantes de l'ascension de Jupiter au pouvoir. Vous y verrez l'interprétation dramatique de Giovanni Stradano du moment où Jupiter défait son père Saturne et libère ses frères et sœurs de l'emprise de leur père. Les forts contrastes entre lumière et ombre dans l'œuvre de Stradano créent une expérience visuelle intense, capturant la puissance et la tension du mythe. Notez comment la figure de Saturne semble se recroqueviller sous la défaite, tandis que Jupiter se tient fort dans sa victoire. L'échelle des figures, combinée au mouvement de la scène, donne l'impression d'assister à un moment de rétribution divine. D'autres peintures de cette salle montrent les diverses aventures et épreuves que Jupiter a traversées pour atteindre la divinité. De sa bataille contre les titans à son triomphe ultime sur le chaos et le désordre, ses œuvres célèbrent l'autorité divine que Jupiter allait incarner. La famille Médicis, qui a commandé ses œuvres, voyait probablement en Jupiter un reflet de leur propre règne, un règne cherchant à instaurer l'ordre et l'harmonie dans un monde parfois chaotique. Continuons maintenant notre voyage et dirigeons-nous vers la salle suivante, la Sala della Stufa. Vous remarquerez peut-être le changement d'atmosphère ici, car nous laissons derrière nous le monde mythologique pour entrer dans un espace plus intime et accueillant. Cette pièce a été conçue dans un but bien différent, mais elle porte toujours la grandeur qui caractérise une grande partie du palais. En entrant, la première chose que vous remarquerez est la chaleur et l'atmosphère accueillante de la pièce. La Sala della Stufa, ou « salle du poêle », était à l'origine utilisée comme une sorte de retraite privée. Elle tire son nom du grand poêle qui se trouvait autrefois au centre de la pièce, apportant chaleur et confort, un réconfort bienvenu pendant les mois plus froids. Le design de la pièce est plus doux, plus domestique, mais toujours rempli du charme indiscutable du style Médicis. Regardez les murs et remarquez les tapisseries et fresques qui décorent l'espace. Les fresques, peintes par Giovanni da San Giovanni, également responsable du plafond de la pièce précédente, représentent des scènes de la vie pastorale, évoquant un sentiment de paix et de tranquillité. Il y a une douceur dans la palette de couleurs de cette salle, des verts doux, des bleus clairs et des jaunes chauds, créant une atmosphère à la fois réconfortante et toujours remplie de grandeur artistique. Les fresques capturent des moments de la campagne, avec des bergers, des bergères et des scènes rustiques du monde naturel, reliant cette pièce aux aspects plus sereins de la vie, loin du drame de la cour dans d'autres parties du palais. Regardez de près les petits détails intimes des fresques. Vous verrez des oiseaux perchés sur des branches d'arbres, des fleurs qui s'épanouissent en arrière-plan et les douces ondulations de l'eau qui coule à travers les scènes pastorales. Le sens de la nature, de la vie et des éléments est présent dans chaque coup de pinceau. Ces œuvres étaient destinées à évoquer un sentiment d'harmonie avec la terre, une échappée face aux tensions politiques et sociales de l'époque. La salle elle-même, bien qu'elle ait été conçue pour le confort, est aussi un espace rempli de touches élégantes. Notez le mobilier, qui comprend des chaises longues ornées et des fauteuils délicats, des pièces aussi fonctionnelles que belles, soigneusement choisies pour correspondre à l'atmosphère chaleureuse et intime de la salle. Le travail en stuc sur les plafonds est un excellent exemple du style luxueux mais mesuré qui imprègne une grande partie du palais. Nous allons maintenant poursuivre notre voyage à travers la Sala dell'Iliade, une autre salle où l'art et la littérature s'entrelacent. En entrant dans cette salle, vous êtes à nouveau transporté dans le domaine de la mythologie grecque, mais cette fois, c'est le grand épique de l'Iliade, l'un des textes fondateurs de la littérature occidentale. La décoration de la salle s'inspire des thèmes héroïques et des batailles dramatiques décrites dans le poème d'Homère, et vous remarquerez que l'atmosphère ici est chargée d'énergie et de mouvement. Regardez au plafond, où vous trouverez des fresques représentant des scènes de l'Iliade. L'une des images les plus frappantes est la colère d'Achille, un moment de passion intense et de tristesse dans l'épopée, lorsqu'Achille se retire de la bataille, refusant de combattre après la mort de son ami bien-aimé Patrocle. Cette fresque, peinte par Giovanni da San Giovanni, capture la profondeur du chagrin et de la colère d'Achille avec un grand drame. Vous pouvez ressentir l'émotion dans la peinture, la façon dont les figures semblent vibrer de vie et de tension. Le long des murs, les peintures poursuivent le récit de l'Iliade. Vous verrez des scènes de grandes batailles, des guerriers engagés dans des combats féroces, des dieux et déesses intervenant dans le fracas, et la guerre de Troie se déroulant dans toute sa brutalité complexe. La palette de couleurs ici est plus riche, remplie de rouge, de bleu profond et de doré, évoquant la férocité et la gloire de la guerre. La violence et la tragédie de l'épopée sont palpables, mais il y a aussi un sens indéniable de l'héroïsme dans les visages des guerriers, leurs corps représentés dans des poses puissantes et dramatiques. Alors que vous vous tenez au milieu de ces scènes héroïques, réfléchissez à la manière dont ces peintures n'étaient pas seulement une célébration de la Grèce antique, mais aussi un moyen de renforcer les valeurs de la famille Médicis, courage, loyauté et honneur. Tout comme les héros de l'Iliade se battent pour la gloire et l'honneur, les Médicis cherchaient à laisser leur propre héritage à travers l'art, la politique et la culture. La Sala dell'Iliade est un hommage parfait au monde antique et à ses histoires intemporelles, et en absorbant les scènes puissantes autour de vous, laissez-vous emporter par les récits épiques des dieux et des héros. En entrant dans la Sala di Saturno, vous remarquerez immédiatement la présence imposante et autoritaire de cette pièce. La grande fresque au plafond, réalisée par Giovanni da San Giovanni, domine l'espace avec sa représentation dynamique de Saturne, le dieu romain du temps et de l'agriculture. Saturne, souvent associé à la fois à la création et à la destruction, est montré dans une posture dramatique, les bras tendus alors qu'il guide l'écoulement du temps. La fresque est remplie d'images célestes, et les figures environnantes représentent les forces naturelles qu'il commande, de la fertilité de la terre au passage des saisons. En regardant autour de vous, les murs de la salle sont décorés de plusieurs autres peintures, chacune illustrant différents aspects du règne de Saturne et de son rôle complexe dans la mythologie. Le ton général est à la fois grandiose et mélancolique, symbolisant l'équilibre entre la création et la dégradation. Les peintures ici évoquent l'âge d'or, lorsque Saturne régnait sur une époque paisible et prospère, mais sous-entendent également le côté plus sombre de son histoire, la chute éventuelle de son règne et le renversement de ses enfants, en particulier Jupiter. Chaque œuvre de cette salle est soigneusement réalisée pour refléter la nature duale du mythe de Saturne. La palette de couleurs est riche en tons terreux, vert profond, brun et or, ajoutant à la sensation d'abondance et de dégradation. Une peinture particulièrement notable représente la défaite de Saturne, un moment symbolique où il perd son pouvoir au profit de son fils, Jupiter. Le combat entre père et fils est dépeint avec un contraste net entre la lumière et l'ombre, créant une tension dramatique qui emplit la pièce. En prenant le temps d'observer les détails, il est évident que cet espace a été conçu pour susciter une réflexion sur la nature cyclique du temps, comment même les plus puissants des souverains finissent par tomber, et comment le temps lui-même est à la fois un créateur et un destructeur. Poursuivons maintenant notre chemin vers la Sala di Giove, une salle dédiée au plus grand des dieux, le souverain de l'Olympe, Jupiter. En entrant dans cette nouvelle salle, vous ressentirez la grandeur et l'importance qui entourent la figure de Jupiter. Cette salle, contrairement à celle de Saturne, est emplie d'un sentiment de puissance divine et de majesté céleste. La fresque au plafond de la Sala di Giove montre Jupiter dans toute sa gloire. Ici, vous le voyez brandissant son foudre, symbole de sa domination sur les cieux. La posture puissante de Jupiter est accompagnée d'autres dieux et figures mythologiques, toutes rayonnant d'une aura de force divine. La fresque donne l'impression de l'immense pouvoir de Jupiter, non seulement sur les cieux, mais aussi sur les forces mêmes de la nature. Sa présence remplit la salle, renforçant l'idée qu'il est l'autorité suprême dans le cosmos. Le long des murs, il y a de nombreuses peintures, chacune illustrant divers épisodes du règne de Jupiter. L'une des plus frappantes est une scène représentant la relation de Jupiter avec Héra, sa femme et reine des dieux. Leur mariage, souvent tumultueux, rempli d'amour et de conflits, est dépeint dans une scène exquise et dramatique d'interaction divine. La force de leurs émotions est capturée par des expressions intenses, des couleurs vibrantes et des compositions dynamiques, faisant de cette peinture un point focal émotionnel de la salle. D'autres œuvres dans cette salle montrent le rôle de Jupiter dans la chute de son père, Saturne, et sa direction dans la bataille contre les Titans. En parcourant l'espace, remarquez comment les figures de ces scènes sont souvent plus grandes que nature, avec des postures exagérées et des expressions faciales intenses. Le travail du pinceau et la composition accentuent le sens du mouvement et du pouvoir, créant une atmosphère générale de commandement divin. Dans cette salle, le sentiment de divinité est omniprésent. Chaque peinture, fresque et sculpture sert à amplifier le mythe de l'autorité suprême de Jupiter. Cet espace a été conçu pour impressionner et inspirer, renforçant l'idée de Jupiter comme un souverain incontesté des cieux, tout en offrant également une réflexion sur ses relations complexes et les luttes de pouvoir qui définissent les royaumes mortels et divins. En entrant dans la Sala di Marte Apollo, vous êtes immédiatement immergé dans l'aura puissante de deux des dieux les plus importants de la mythologie grecque et romaine, Mars, le dieu de la guerre, et Apollon, le dieu du soleil, de la musique et des arts. Cette salle est un véritable festin visuel, avec des fresques et des peintures du maître Agnolo Bronzino, une figure emblématique du mouvement maniériste en Italie. Le style de Bronzino se révèle dans chaque recoin de cette pièce, notamment dans la fresque du plafond, où il capture magistralement l'énergie et les natures contrastées de Mars et Apollon. La fresque montre ces deux dieux engagés dans une bataille allégorique, l'un symbolisant la destruction et l'autre la création. Mars, avec ses traits acérés et sa présence imposante, est représenté en armure complète, son corps sculpté de façon musclée. Sa posture est intense, dégageant l'énergie et l'agression de la guerre. On peut presque ressentir la force de sa silhouette tandis que le travail détaillé de Bronzino accentue la tension dans sa pose. Mars tient son épée et son bouclier, prêt à combattre, et son armure brille de nuances de rouge, d'or et d'argent, capturant la chaleur et la férocité de la guerre. L'attention portée aux détails est époustouflante, chaque courbe de son armure et chaque muscle sont rendus avec une telle précision que Mars semble surgir du plafond, presque vivant dans sa colère. En contraste frappant, Apollon est peint avec une présence sereine mais tout aussi captivante. Le dieu du soleil et des arts est montré dans une pose détendue et éthérée, debout avec une lyre dans les mains. Sa posture est calme et gracieuse, reflétant l'harmonie et l'ordre qu'Apollon incarne. La maîtrise des couleurs de Bronzino est pleinement affichée ici, le corps d'Apollon brille de nuances dorées, de bleu pâle et de blanc qui évoquent la pureté et la lumière. Les contrastes entre Apollon et Mars ne se trouvent pas seulement dans leur forme physique mais aussi dans leur signification symbolique. Tandis que Mars incarne la violence, le chaos et la destruction, Apollon incarne la beauté, la raison et la paix. Les deux dieux semblent occuper le même espace, mais chacun habite un royaume différent. La silhouette agressive et avancée de Mars contraste vivement avec la posture posée et reculée d'Apollon. Cette dynamique met en valeur non seulement leurs caractéristiques opposées, mais aussi une harmonie presque tendue dans la fresque. On a l'impression que ces dieux sont en pleine confrontation cosmique, chacun représentant des forces fondamentales qui façonnent l'univers, la guerre et la paix, la destruction et la création, le chaos et l'ordre. L'un des points forts de Bronzino en tant qu'artiste est sa capacité à rendre le corps humain avec précision et élégance. Chaque muscle et chaque veine sont soigneusement sculptés, donnant aux figures de Mars et Apollon une qualité réaliste, les rendant presque tangibles, comme s'ils pouvaient descendre du plafond et entrer dans la salle. Le travail minutieux sur leurs figures, leur forme parfaitement proportionnée et la gestion de la lumière qui éclaire leur corps montrent la virtuosité technique de Bronzino. Les couleurs de la fresque sont également l'une des marques de fabrique de Bronzino. Les tons profonds et riches de l'armure de Mars Bordeaux, cramoisi et or sont contrebalancés par les teintes plus douces et légères entourant Apollon. L'utilisation des couleurs par Bronzino définit non seulement les personnages mais infuse aussi la salle d'un sens du drame. Les couleurs plus sombres et intenses autour de Mars renforcent la tension, tandis que la palette plus lumineuse et calme autour d'Apollon évoque un sentiment de tranquillité et de sérénité divine. En plus des figures de Mars et Apollon, Bronzino peuple la fresque de figures mythologiques supplémentaires, soldats armés d'épées et êtres célestes, créant une scène vivante d'énergie. Le mouvement dans la fresque est palpable, avec des lignes tourbillonnantes et des draperies flottantes qui ajoutent un sens du dynamisme à la scène. L'utilisation de la perspective et de l'espace est habile, dirigeant le regard du spectateur vers le sommet de la fresque, donnant aux dieux l'air de dominer la pièce dans toute leur majesté. Les thèmes mythologiques continuent sur les murs de la salle, où l'art de Bronzino prend une forme différente dans les nombreuses petites peintures qui vous entourent. L'une de ses œuvres est Apollon et Marcia, un conte mythologique célèbre sur le satyre Marcia, qui défie Apollon lors d'un concours musical. Marcia, pensant naïvement qu'il peut surpasser Apollon, finit par être puni pour son arrogance, Apollon le dépouillant de sa peau. Ce récit des conséquences de l'arrogance est représenté de manière vivante et presque effrayante. Les personnages sont peints avec l'élégance caractéristique de Bronzino, mais il y a un courant sous-jacent glaçant dans la scène, l'expression de douleur de Marcia contraste fortement avec le détachement serein mais froid d'Apollon. Le contraste intense entre ces deux personnages accentue la nature tragique du mythe. Dans toute la salle, l'œuvre de Bronzino ne se contente pas de procurer une beauté esthétique, elle offre également des réflexions plus profondes sur la nature des dieux eux-mêmes. L'accent mis par l'artiste sur le contraste entre Mars et Apollon, la guerre et la paix, la violence et la beauté, reflète la nature complexe et souvent contradictoire de l'expérience humaine que ces dieux personnifient dans les mythes. Dans chaque coin de cette salle, le génie de Bronzino en tant que peintre brille. Son utilisation de l'espace, de la lumière, de la couleur et de la forme crée une atmosphère à la fois grandiose et intime. En admirant ses œuvres magnifiques, on ressent la tension entre les dieux, les histoires qu'ils représentent et le pouvoir de l'art pour les faire revivre de manière aussi captivante et intemporelle. En poursuivant notre parcours à travers la Galleria Palatina, nous entrons dans la Sala di Venere, une salle qui célèbre la beauté, l'amour et l'attrait intemporel de Vénus, la déesse romaine de l'amour et de la beauté. La salle est un exemple parfait de l'opulence de la Renaissance, chaque détail du plafond au mur étant imprégné de symbolismes riches et de magnifiques œuvres d'art. Le point central de cette salle est une fresque époustouflante de Giovanni da San Giovanni, représentant la divine Vénus elle-même, entourée de figures issues de la mythologie classique. Dans la fresque, Vénus est montrée dans une pose gracieuse, radieuse et sereine, entourée de chérubins espiègles et d'autres déités mythologiques. L'utilisation des couleurs est saisissante, des teintes de rose doux, de bleu et d'or créent une atmosphère de chaleur et d'élégance. Vénus, souvent associée à l'amour, à la fertilité et à la beauté, est représentée comme l'incarnation de la féminité divine. Elle regarde vers le bas, sa posture élégante et accueillante, exhalant un sens presque tangible de grâce et d'attrait. Les figures qui l'entourent, incluant des chérubins amoureux et des symboles de l'amour, accentuent les thèmes d'harmonie et de beauté de la salle. Le long des murs de la salle, d'autres œuvres approfondissent la connexion de Vénus avec le monde naturel. Les peintures, créées par plusieurs artistes renommés de l'époque, représentent des jardins luxuriants, des fleurs et d'autres symboles de la fertilité et de l'influence de la déesse. La salle dans son ensemble fait écho à l'idéal de la Renaissance du divin, célébrant non seulement la beauté du corps humain, mais aussi l'harmonie entre l'humanité et la nature. En entrant dans la Sala del Niki, le ton de la salle change subtilement. La Sala del Niki, salle des niches, doit son nom aux niches décoratives construites dans les murs, qui abritent une série de belles sculptures, représentant chacune des figures de la mythologie et de l'histoire classique. Ces niches créent un rythme élégant le long des murs, vous invitant à vous attarder et apprécier les sculptures raffinées qui y sont exposées. Les peintures de cette salle complètent l'impression de narration mythologique. De riches fresques baroques couvrent le plafond, représentant des scènes de la mythologie classique, et viennent compléter les sculptures en dessous. Les fresques du plafond, attribuées à Giovanni da San Giovanni, sont remplies de couleurs vibrantes et montrent des représentations allégoriques des vertus et des traits associés aux dieux et déesses. Une scène particulièrement saisissante montre les dieux lors d'un festin céleste, entouré de nuages éthérés et de draperies flottantes. Les couleurs utilisées ici, des bleus intenses, des blancs doux et des tons dorés, créent une atmosphère onirique, vous immergeant dans un monde où les dieux et les mortels existent en harmonie. En parcourant la Sala del Niki, vous rencontrerez également des portraits de figures notables, y compris des membres de la famille Médicis, dont le mécénat a joué un rôle clé dans le développement de ces espaces majestueux. Ces œuvres, bien qu'elles soient plus ancrées dans la réalité, partagent néanmoins le même sens de grandeur et d'élégance qui imprègne toute la galerie. Enfin, nous arrivons à la Salone Verde, salle verte, qui offre un changement rafraîchissant d'atmosphère, en embrassant la nature avec ses tons verts luxuriants et son ambiance sereine, presque idyllique. La Salone Verde se distingue par sa tranquillité, ses teintes dominantes de vert apportent un sentiment de paix et d'harmonie, évoquant la beauté de la nature. Le nom de cette salle, salle verte, est parfaitement approprié, car le vert domine la palette de couleurs des murs, des plafonds, et même de certains meubles, contribuant à l'impression d'être entouré par l'étreinte apaisante de la nature. Les peintures sur les murs de la Salone Verde reflètent la connexion entre l'humanité et le monde naturel. Les fresques, peintes par Giovanni da San Giovanni, évoquent des thèmes de l'amour et de la fertilité, mêlant des scènes mythologiques à des paysages pastoraux. Ces fresques montrent des figures en harmonie avec la nature, des dieux, des nymphes et des bergers interagissant paisiblement avec les animaux et le paysage. La végétation luxuriante et les fleurs éclatantes représentées ici invitent à apprécier la beauté du monde naturel tout en l'intégrant dans le divin. L'éclairage doux de la Salone Verde renforce la calme de la pièce, créant un espace qui semble presque méditatif. Il y a une sensation d'espace et d'ouverture, ce qui en fait un endroit idéal pour la contemplation. En observant les détails complexes des fresques et la légèreté de la salle, vous pouvez presque ressentir l'influence de la beauté de la nature s'infiltrant dans le tissu même de l'espace. La Salone Verde nous rappelle les idéaux de la Renaissance d'harmonie entre l'humanité, la nature et le divin. Ensemble, ces trois salles, la Sala di Venere, la Sala del Niki et la Salone Verde, se complètent magnifiquement. Elles nous emmènent à travers différents aspects de la mythologie classique, de la beauté humaine et du monde naturel, en alliant la grandeur mythologique aux idéaux de la Renaissance. Chaque salle offre un récit unique, invitant à faire une pause et réfléchir aux connexions entre l'art, la nature et le divin qui définissent cette exceptionnelle collection d'œuvres. Merci de vous être joint à nous pour ce voyage fascinant à travers la Galleria Palatina. Nous espérons que vous avez apprécié l'exploration des magnifiques œuvres d'art, sculptures et fresques qui racontent les histoires des dieux, déesses et de la grande famille Médicis. Chaque salle de cette magnifique galerie offre un aperçu du génie créatif des artistes de la Renaissance, ainsi que de l'immense héritage culturel de Florence. Nous vous remercions d'avoir réservé cette visite avec YouTour et espérons qu'elle a enrichi votre appréciation de la beauté et de l'histoire que recèle ce palais incroyable. Mais votre exploration ne s'arrête pas ici. La Galleria Palatina n'est qu'une partie du Grand Palais Pitti, et il y a encore beaucoup à découvrir. N'hésitez pas à poursuivre votre expérience en explorant les autres guides audio disponibles. Vous pouvez plonger dans le monde de l'art moderne, entreprendre un voyage à travers les collections de mode et de costumes, ou découvrir les trésors extraordinaires de la trésorerie des Grands-Ducs. Chacune de ces sections offre des perspectives uniques sur différents aspects du riche patrimoine culturel de Florence. Merci encore d'avoir fait partie de la visite d'aujourd'hui, et nous espérons que vous continuerez à profiter de tout ce que le Palais Pitti a à offrir.